Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps, nous allons commencer notre méditation de ce soir et bienvenue à tous devant la présence de notre Dieu sur ce plateau Fumes, section Amérique du Nord. Je vais demander à notre frère Médard de nous faire la prière d'ouverture, s'il vous plaît.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ce moment que tu nous donnes. Tu as été avec nous durant toute la journée, Seigneur. Tu nous as aidés à faire tout ce que nous pouvions faire. Et Seigneur Dieu, tu nous as rentrés à la maison. Et maintenant, Seigneur Dieu, tu nous vois autour de toi. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment où tu veux nous parler, où tu veux nous instruire, où tu veux nous éduquer et que tu veux nous corriger. Mais Seigneur, de ce temps, nous voulons que ce temps soit agréable. Nous venons auprès de toi, Seigneur, de te dire que parfois nous n'avons pas été conformes à ta volonté. Nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu, Seigneur. Tu vois chacun de nous. Parce que nous voulons, Seigneur, de que cette nuit, ce soir puisse être bénéfique dans nos vies. Nous venons près de toi pour que tu nous pardonnes. Pardonne chacun de nous. Pardonne chacun de nous nos manquements. Pardonne chacun de nous nos fautes, Seigneur. Nous voulons être lavés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix, Seigneur. Merci, grand Dieu, parce que toi, tu as dit dans ta parole que si nous demandons pardon de nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur pour cette promesse, Seigneur. Rendons grâce. Merci encore une fois pour ce pardon. Et merci pour le Saint-Esprit que tu vas remplir à chacun de nous pour que Seigneur Dieu, nous puissions comprendre ta parole. Grand Dieu, spécialement nous te prions pour ta servante, ta fille, Seigneur, qui veut nous diriger ce soir. Merci parce que tu vas l'aider à canaliser toutes les idées qui viendront de toi, mais par nous, Seigneur Dieu, pour que, Seigneur Dieu, nous puissions arriver à bon port et nous puissions comprendre le mot, la phrase, l'idée que tu veux nous apprendre ce soir. Merci encore une fois. Merci pour nos bien-aimés qui sont déjà là. Merci pour nos bien-aimés qui vont nous rejoindre. Nous voulons, Seigneur, que ce temps puisse être dirigé par toi. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen. Merci pour la prière, notre frère Médard. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons méditer sur Apocalypse ou Révélation, chapitre 2. Nous commençons à partir de verset 8 jusqu'au verset 11. Pour cela, nous allons écouter deux lectures. La première lecture avec notre pasteur José des États-Unis et la deuxième lecture avec le pasteur José du Canada sur deux différentes versions. Et je donne la parole maintenant au pasteur José des États-Unis, s'il vous plaît, pour la lecture.
Merci beaucoup, ma sœur. Écoutons le message adressé à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité, tu es riche. Je sais le mal que disent de toi qui te prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui auront remporté la victoire ne subiront pas la seconde mort. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Merci, pasteur José, pour des États-Unis pour la lecture. Maintenant, nous pouvons écouter la lecture avec le pasteur José du Canada, s'il vous plaît.
Oui, Louis II aura ce texte de la manière suivante. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est la parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Merci, bien-aimé pasteur José du Canada, pour la lecture. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, maintenant nous sommes là dans le livre d'Apocalypse ou Révélation, chapitre 2. Nous avons entendu nos deux lectures qui ont été faites par nos deux pasteurs, José du Canada et José des États-Unis. Alors, bien-aimés, nous avons amassé ensemble ce livre d'Apocalypse il y a quelques jours, où nous avons vu notre Dieu qui a donné la révélation à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui a donné à son serviteur pour révéler les choses qui vont venir, qui sont en train de se passer, qui vont venir dans les jours à venir. Et dernièrement, hier, pas plus que tard, hier, nous avons vu comment il a adressé à la première église qui est l'église de l'Éphèse. Dans cette église, il s'est présenté comme celui qui tient les 7 étoiles dans ses mains et il marche au milieu des chandeliers. Il a parlé à l'église, nous avons eu beaucoup de leçons. Il connaît les œuvres des membres de cette église. Chacun de nous s'est revu lui-même et connaît ses œuvres, sa persévérance et tout. Nous avons vu beaucoup d'autres choses. Il a dit des positifs et des négatifs. Ce qu'il raconte, c'est que cette église d'Éphèse, bien-aimée, avait perdu son premier amour, amour bien sûr, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son prochain. Et les conséquences étaient que le Seigneur allait ôter il va donner à celui qui vaincra, il va donner et il donnera à manger l'arbre de vie. Donc chacun de nous se réjouit qu'il soit partie prenante de cette table de vie. Alors, bien aimé, ce soir sur le plateau Fumès, nous continuons par la deuxième, en train de lire deuxième, le message à cette deuxième église, l'église de Smyrne. Qu'est-ce qu'il dit à cette église, bien-aimée? C'est une façon d'encourager cette église de tenir bon dans la foi. Il se présente, bien-aimée, comme le premier et le dernier, et il donne, parle de ceux qui se disent juifs et ceux qui sont en train de faire. Bien-aimés, il y a de bonnes histoires. Nous n'avons que 4 versets, bien-aimés. Et ces 4 versets, c'est plein de leçons. Je n'aimerais pas aller à détail, mais j'aimerais vous rappeler que pendant que nous partageons, nous pouvons nous rappeler de ces 3 questions qui sont devant nous. Essayons de répondre à ça. Question 2. Je veux lire, bien-aimé, et ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas garder avec moi la parole trop longtemps. J'aimerais vous donner à vous, nous n'avons que 4 bon verset, et nous pouvons aller même partie en partie comme le Saint-Esprit nous guide. Alors, assemblée, je vous donne à vous maintenant la parole. Il n'y a pas de nouveaux personnes, nous n'avons pas changé de méthode. Bien aimé, quand vous avez quelque chose, évidemment, vous pouvez prendre le clavier de votre téléphone, appuyer sur l'étoile et le chiffre 2. Et moi, je verrai la priorité. Comme je vois déjà ici, je vais donner la parole à notre bien-aimé pasteur José des États-Unis. À vous, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, ma sœur, pour la parole. Bien-aimé, je suis au verset 8. Au verset 8, je prends le paragraphe qui commence par « Voici ». Et je veux m'arrêter au dernier seulement pour laisser la parole aussi à un autre frère de terminer ce verset. Voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier. Bien-aimés, nous nous souvenons que au début de ce livre, notre Seigneur, au verset 8, avait dit qu'il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, ce sont des lettres de l'alphabet grec. Alpha, c'est l'équivalent de notre A. Et puis, l'oméga, c'est l'équivalent de notre Z. Ici, aujourd'hui, il, toujours dans le même ordre d'idées, il se présente comme le premier, comme l'alpha et comme le dernier, l'oméga. Le premier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier en tout. Il a aussi le dernier. C'est-à-dire, lorsque vous comptez, vous commencez par lui. Et lorsque vous terminez à compter, et c'est toujours par lui. Donc, on ne peut pas aller au-delà de lui. Il est le centre de tout. Il est le centre de notre vie, de notre salut. Je ne peux que m'attacher à ce premier et à ce dernier qui est Jésus-Christ. Merci.
Merci beaucoup, Pasteur José, de nous rappeler que déjà au chapitre 1 et au verset 8, la parole a dit qu'il était, le Seigneur était l'oméga et alpha et oméga plutôt. Et aujourd'hui, c'est la même chose, le premier et dernier. Et quand il déclare premier et le dernier, je crois s'il y avait encore un autre premier, il allait dire que non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Donc, les paroles sont vraies. Notre Seigneur est le premier. Comme nous pouvons dire qu'il est le commencement et qu'il est la fin. Est-ce que moi et toi, nous croyons qu'il est le commencement et la fin? Si oui, gloire au Seigneur. Si pas, c'est le temps de se rappeler et de croire à ça. Amen. Merci, Papa José. Nous donnons la parole à au pasteur José, mais cette fois des Canada, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, maman, pour la parole. Toujours dans le même verset, la deuxième partie de ce texte dit, non seulement le Seigneur dit qu'il est le premier et le dernier, mais il dit aussi celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Déjà, au chapitre 1, toujours, lorsqu'il s'est présenté à Jean, il lui dit au verset 17 et 18, en reprenant exactement les mêmes expressions, non seulement il lui dit qu'il est le premier et le dernier, mais au verset 18, il va ajouter « et le vivant ». J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et ce qui est plus intéressant encore, ce que le Seigneur dit à Jean, « je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Donc, le fait que lorsqu'il se présente ici à l'église de Smyrne pour que l'église sache qui il est en disant il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie, il est revenu à la vie, c'est parce qu'il a vaincu la mort. Et par conséquent, il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Lorsque je comprends cette vérité, alors je me dis, si la mort m'atteint aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un sorcier quelque part a eu le pouvoir de m'enlever la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un quelque part a décidé que moi je meurs. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui a les clés de la mort et du séjour de mort. En d'autres termes, il est celui qui décide qui meurt et qui vit. Donc, si il faut que je meure aujourd'hui, ça veut dire que c'est lui qui a décidé, lui et lui seul. Bien sûr, il peut utiliser un moyen comme un autre, qui va peut-être amener la mort, tout comme je peux dormir et dans mon sommeil, je m'en vais aussi. Mais ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, ce que je vois, c'est que c'est mon Seigneur, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, c'est lui qui détient les clés de la mort. Donc, je n'ai pas peur. Et comme c'est mon Seigneur à moi et qu'il m'aime, je n'ai pas peur. Je sais que quand il décidera, je partirai. Alors, personne ne peut m'enlever la vie si lui ne l'a pas décidé. Voilà ce que je retiens de cette deuxième partie du verset 8.
Merci beaucoup, pasteur José, de cette intervention. Référant à ce premier chapitre dont nous avons vu au verset 18, les mêmes déclarations et surtout ajouter qu'il a les clés de la mort et des séjours de mort. Et tout en soulignant qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux attendre, la mort ne peut venir m'arracher ou quelqu'un ne peut m'envoyer au séjour de mort sans la volonté de Dieu. À moins que j'aie un mauvais comportement qui donne que l'ennemi est en prise sur moi et me précipite. Mais si je marche correctement dans la volonté de Dieu, il n'y a que lui qui pourra prendre la dernière décision. Merci beaucoup, notre pasteur José. Bien-aimé, je ne vois pas de main. Nous progressons. Qui peut nous prendre ce verset, le verset 9, ou bien revenir sur le verset 8, il y a s'il y a d'autres révélations qui n'ont pas été dites. Oui, nous donnons la parole au pasteur Célestin, s'il vous plaît. À vous la parole.
Oui, merci, maman Christine, pour la parole. J'aimerais, dans un premier temps, m'arrêter aussi au verset 8 pour voir que le deuxième message est adressé à l'église de Smyrne. Le premier message a été adressé à l'église d'Éphèse. Et nous verrons le troisième message qui sera adressé à l'église de Pergame. Tout ceci nous montre combien toutes ces églises ont leur spécificité. Elles sont aux yeux du Seigneur. Elles ont la même mission, bien sûr, l'ordre de répandre la bonne nouvelle, mais elles ne sont pas identiques. Voilà, on adresse le message à l'église d'Éphèse, Quand nous regardons le contenu du message, le contenu est différent du message que nous sommes en train d'étudier à l'église de Smyrne. Donc ceci c'est pour nous dire, quand le Seigneur nous met quelque part dans cette église ici de Smyrne, même dans l'église d'Éphèse, il y avait des noms, il y avait les noms de pasteurs, il y avait les noms des anciens, il y avait les noms de tel ou de tel, mais on n'adresse pas le message aux particuliers. On adresse le message à l'église, à l'ensemble des croyants qui constituent cette église locale. Une façon de leur montrer qu'ils sont une famille. Ces membres, vous êtes une famille, vous qui êtes dans l'église de Smyrne, vous êtes une famille. Et ceux qui étaient à Éphèse sont une famille. Voilà pourquoi ils leur adressent tous ensemble le même message. Une façon de nous parler aussi que nous aussi, dans nos églises locales, nous sommes une famille. En tant que famille, quand un message du Seigneur nous est adressé ou adressé à une partie de notre église, ça peut être aux intercesseurs, ça peut être aux choristes, ça peut être au corps, aux dirigeants, ce message concerne tout le monde en tant que famille. Alors je me dis, imaginons qu'un message nous est adressé en tant que FIMES. Nous devons nous sentir une famille. Pour dire, quand il y a un problème dans une famille de FIMES, dans la vie des membres, nous devons nous sentir plus concernés parce que nous sommes une famille. Le message est adressé à toute la famille. Quand nous avons une activité comme le camp, c'est à toute la famille que ça concerne. Amen.
Amen. Merci, Pasteur Sele, pour cette intervention. C'est vrai, bien-aimé, nous pouvons réfléchir chacun de nous. Quand nous voyons ces messages, les messages sont des différents messages, mais adressés à l'ensemble, à l'Église entière, comme nous, à FIMES, au FIMES aujourd'hui. Alors moi, c'est comme une interpellation, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est ça. Mais est-ce que quand on parle de quelque chose dans mon Église, où on parle de quelque chose, d'un événement très important, est-ce que ça me concerne ou je dis c'est pour les autres, pas moi? Bien aimé, c'est une interpellation. Merci beaucoup, Pasteur José, Célestin, s'il vous plaît. Et nous donnons la parole au Pasteur José du Canada, s'il vous plaît.
Merci beaucoup encore. Au verset 9, je trouve... une question de la vision, comment je me vois, comment je vois notre communauté, que ce soit l'Église, que ce soit le FIMES. Le Seigneur dit, il présente en fait une double réalité pour cette Église de Smyrne. Il lui dit, je connais ta pauvreté. Mais en même temps, il dit à cette communauté, la vérité que je vois devant Dieu, c'est que tu es riche. Ça pose la question de comment je me vois, comment est-ce que je vis avec le Seigneur. Peut-être maintenant, avec mes yeux humains, avec la réalité que je vois, que j'ai, c'est que je suis pauvre, je manque peut-être de choses. Si c'était une église pauvre, ça veut dire que peut-être qu'ils n'avaient pas de bons bancs à l'église, peut-être que le bâtiment était délabré. En tout cas, ils sont dans un contexte, une réalité de pauvreté. Mais c'est cette église qui vit cette pauvreté est vue par le Seigneur comme étant une église riche. Alors je me dis, comment est-ce que Dieu me voit? Quelle est ma situation devant lui? Nous verrons plus tard, à une autre église, le Seigneur va dire, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. En d'autres termes, je peux être ce que je suis aujourd'hui, mais pensant peut-être que j'ai des moyens, mais devant Dieu, je suis pauvre. Tout comme je peux être vraiment pauvre, je me dis, je ne suis rien, alors que devant Dieu, je suis riche. Donc, comment est-ce que je me vois? Il y a aussi une autre vérité que je laisserai encore à quelqu'un. C'est celle du vrai et du faux. Donc, il y a dans ce verset deux réalités, mais qui constituent une dualité. Une qui est celle que je peux voir et une autre que celle que Dieu voit. Est-ce que les personnes que je vois à l'église sont des personnes que Dieu voit comme appartenant à son royaume, etc. Voilà.
Merci, pasteur José, pour cette intervention. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons chacun de nous réfléchir. Quand Dieu me voit, moi, quand je vois, c'est vraiment une réalité. On peut paraître pauvre, mais en réalité, on est riche. Riche comment? On a pu, mettre son argent au service du Seigneur ou travailler au service du Seigneur. Vous savez que le travail du Seigneur n'est pas en vain. Nous sommes toujours payés. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Donc, ici, c'est chacun de nous de se voir. Mais est-ce que je suis riche devant Dieu ou je suis pauvre? Les dîmes, les offrandes, c'est pas mon affaire. Le travail du Seigneur, c'est pas mon affaire. Par conséquent, je n'ai pas l'argent à magasiner dans les ciels. Donc, je suis pauvre. Mais ici, que chacun de nous soit interpellé sur cela. Merci beaucoup au pasteur José du Canada. Nous donnons la parole au pasteur José des États-Unis, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, ma sœur, encore une fois. Bien-aimé, toujours dans le cadre de cette église, oui, elle était pauvre, les fidèles étaient pauvres. Et le Seigneur s'intéresse à cette église pauvre, comme il s'intéresse aussi à une église riche. Nous verrons, parmi les sept, il y a une église qui est l'opposé de cette église-ci. Cette église-ci est pauvre matériellement. Cette église a eu beaucoup de souffrance. Tandis que l'autre église que nous verrons, c'est une église riche, selon les hommes, bien sûr. Mais quand Dieu regarde cette église, nous verrons, je ne vais pas anticiper, mais ce que j'ai voulu dire est que le Seigneur s'intéresse à tous, aux pauvres, tout comme aux riches. Mais ce que je veux partager dans ce verset, c'est la deuxième partie. Je sais le mal que disent de toi ceux qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. C'est-à-dire, il y avait dans cette ville-là, et même dans cette église, il y avait des gens qui calomniaient, qui donnaient des faux messages à l'endroit de chrétiens de Smyrne. Et eux, ces hommes-là et ces femmes-là, se prenaient pour des juifs. Les juifs qui est le peuple de Dieu, le juif, c'est le peuple de Dieu. Et ils se prenaient pour ça, avec l'orgueil et tout. Mais en réalité, selon la parole, ils n'étaient pas juifs. Ce qui fait que ils étaient des gens qui n'appartenaient pas à l'Église de Dieu. Et le Seigneur précise qu'ils faisaient partie de l'assemblée de Satan. Voilà. Donc, ils donnaient l'impression d'être des juifs, c'est-à-dire des hommes et les femmes pieux, des hommes qui aimaient Dieu, mais en réalité, leur Dieu, c'est une autre personne. Et cette façon de vivre n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Dieu veut que nous nous présentions comme tels et que nous soyons comme tels au lieu de présenter une face, alors que la vraie face est une face mauvaise. Ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Merci.
Merci pour votre intervention, pasteur José des États-Unis. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, là nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, et nous avons commencé dès le verset 8 jusqu'au verset 11. Alors, bien-aimé, merci, pasteur José. Bien-aimé, c'est très important ce que notre pasteur vient de dire. Ces gens se présentent comme les juifs, mais en réalité, ils sont d'une synagogue de Satan. Moi, je réfléchissais. Je dis, moi, la sœur en Christ, tous les gens me connaissent comme une sœur en Christ. Mais qu'est-ce qui a réalité en moi? Est-ce que je n'appartiens pas à ces synagogues de Satan ou d'une secte quelque part? Et quand je me présente devant Dieu, alléluia, la Bible, mais en réalité, Dieu qui voit tout, il n'a pas pu voir cela. C'est pour cela qu'il donne directement le message. Alors c'est une interpellation. Où est-ce que je me situe, moi, sœur et frère en Christ? Est-ce que je ne suis pas sœur seulement de nom? Ici, quand nous voyons ceux qui se disent juifs, nous pouvons prendre ça dans deux volets, s'il vous plaît. Juifs de naissance, mais juifs aussi, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur. Juifs de naissance, ce n'est pas tellement ça qui importe Dieu, mais ce qui importe quand on a une relation. Qui suis-je et qui suis-je dans le Seigneur? Merci pour cette intervention. Je ne vois pas encore. Demain, là, nous sommes au verset 9. Non, donc... qui peut nous prendre le verset suivant ou s'il y a une révélation quelconque, on peut revenir et partager avec les autres. Sinon, en attendant que la modératrice voit les mains, elle progresse. Oui, merci. Je donne la parole au pasteur José du Canada, s'il vous plaît.
Merci encore pour la parole. C'est que le verset 10, la manière que le Seigneur parle à cette église, lui disant, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Déjà, rien que ça, ça me dit, je sais que personne n'aime la souffrance, c'est que on a la foi pour dire, nous aimerions, Seigneur, transcender les douleurs du moment présent, parce que nous aspirons au bonheur, à la paix, à la prospérité, à la santé, etc. Mais le Seigneur dit à Jean d'écrire à l'église de Smyrne pour lui présenter cette réalité, lui dire, tu vas souffrir, mais ne crains pas ce que tu as à souffrir. Ça montre simplement que l'église de Smyrne est un type ou un exemple de ces communautés, peut-être de petites communautés, qui demeurent fidèles au Seigneur malgré les temps difficiles. Demeurer fidèles au Seigneur malgré la souffrance est hautement apprécié de la part de notre Dieu. Il se pourrait qu'en ces moments, quelqu'un ou moi-même, nous vivons une situation qui nous est particulièrement difficile, peut-être insupportable. Et ce message à l'église de Smyrne est aussi un message qui nous est adressé. Qu'en ce moment, le Seigneur vient nous dire, je sais ce par quoi tu es en train de passer, je sais ce que tu vis, je connais la difficulté qui est la tienne, mais prends courage, n'abandonne pas, persévère. Je sais ce que j'ai prévu, mais avant que tu vives autre chose, il faut que tu sois persévérant dans ce moment de difficulté, dans ce moment de douleur. Je trouve ça un message qui vient me rassurer, que le Seigneur me connaît, il connaît ma situation. Cette situation difficile n'est pas oubliée de lui. Le Seigneur n'est pas indifférent, mais il veut me former, il veut m'apprendre quelque chose, j'ai besoin de persévérer, j'ai besoin d'être toujours et avec joie persévérant et patient. Voilà.
Amen. Merci beaucoup, pasteur José. Bien-aimé dans le Seigneur, là, c'est très capital de savoir que quand nous sommes dans la souffrance ou dans la joie, évidemment, Dieu est au courant, tout est à nu, à découvert devant lui, il voit tout, il connaît. Et il vient pour nous encourager de tenir bon dans la foi. Donc pour dire que les souffrances, en quelque sorte, ça fait partie de la vie chrétienne. Et quand nous sommes dans la souffrance, le conseil, c'est tenir très bon devant notre Dieu. Donc, quand il encourage comme ça, une interpellation bien-aimée, c'est que dans la souffrance, je peux aussi ne pas tenir, c'est décourager et abandonner. Mais ce soir, Dieu veut que nous n'abandonnons pas, que nous tenons bon. Qu'est-ce que nous sommes en train de traverser? Sachant que le Seigneur vient ce soir nous encourager pour dire, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Quelle nouvelle! On dira, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais c'est Dieu qui a prévu cela. Amen.
Amen.
Oui, bien-aimé, nous donnons la parole au pasteur Célé, s'il vous plaît.
Oui, merci beaucoup, maman Christine, pour la parole. Toujours dans ce verset 10, je pensais au moins que le Seigneur pouvait dire à cette église, je vois les souffrances venir, mais je les ai déjà écartées. Non, il ne donne pas le message de cette manière, il dit, vous traverserez des souffrances. Donc, une façon de nous dire qu'il ne faudra pas, quand on voit un enfant de Dieu dans telle ou telle souffrance, dans telle ou telle disette, dans telle ou telle carence, ne pensons pas que c'est nécessairement le fruit du péché, pas nécessairement. Les souffrances, comme le Seigneur les a traversées, c'est une partie de la formation du peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Au travers de toutes sortes de souffrances, reste fidèle jusqu'à la mort. Reste fidèle jusqu'à la mort. Pourtant, nous connaissons la vie de tous les jours. Quand les souffrances viennent, on veut prendre des raccourcis. On veut faire comme Monsieur Tout le Monde. On veut abandonner le chemin de la foi. On veut abandonner le chemin de l'Église. On veut abandonner le chemin de tous les ordres donnés par le Seigneur à ses enfants. On veut abandonner cela. On veut vivre comme Monsieur Tout le Monde. Où la leçon que je tire, c'est que qu'est-ce que je suis en train de traverser? Est-ce qu'il y a un relâchement dans ma foi? Est-ce qu'il y a un découragement qui fait, qui me dit, oh, j'ai toujours été à l'église, mais pourquoi ceci ne marche pas? J'ai toujours donné ma dîme, pourquoi ceci ne marche pas? J'ai toujours fait ceci, aidé, mais pourquoi ceci ne marche pas? C'est un message qui nous concerne tous. Le Seigneur nous rappelle ce message, reste fidèle, il n'a pas oublié ce que nous traversons. Amen.
Amen. Merci, pasteur Célé, pour l'intervention. Bien-aimé, quelle joie notre Dieu nous donne un mot d'ordre de ce soir. Reste fidèle, ne panique pas pour dire que moi, Dieu, je suis en train d'intervenir. Bien-aimé, je ne vois pas de main, je continue. Il dit que l'objectif du message, c'est quoi? C'est pour que... Qu'est-ce que d'abord le message? Les diables jettera quelques-uns de vous en prison. Voilà le message que nous avons. Bien-aimé, je n'aimerais pas continuer parce que je vois la main du pasteur José. À vous la parole. Vous pouvez continuer sur le message que nous avons.
Oui, je te laisse le diable vous les traiter. Alors, je prends la fin de la dernière phrase, là où il est question de fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et il ajoute, et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Donc, quand tu vas jusqu'au bout, jusqu'à la mort, voici alors la récompense. C'est la couronne de victoire qui est la vie éternelle. Alors, le Seigneur montre cette fin, on peut dire tragique, mais cette fin est voulue par le Seigneur. Cette fin
a été autorisé par le Seigneur parce que à la fin de cela, il va donner la vie éternelle. La mort est intervenue, mais suivie de la vie éternelle. Alors, dans ces cas, celui qui écoute le message, s'il est vraiment dans le Seigneur, il ne peut pas se paniquer. Il va accepter cette mort parce que il sait que mon maître connaît la fin et mon maître a prévu aussi une récompense. Il veille jusqu'au bout. Autant rester toujours attaché au Seigneur, connaître cette difficulté-là qui amène jusqu'à la mort, mais on sait que il y a quelque chose de bon qui vient. C'est la vie éternelle qui vient.
Amen.
Oui.
Amen.
Alors, là, c'est la joie qui peut nous inonder, même si nous sommes entourés de problèmes, de difficultés et même de la mort. Mais nous savons qu'à la fin de cela, il y a la vie éternelle. Merci.
Merci beaucoup, pasteur José, de nous rappeler qu'à la fin de tout, il y a de quoi tenir bon. Nous avons une récompense qui nous attend, et cette récompense, c'est la vie éternelle. Merci beaucoup, pasteur José. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le pasteur José a dit tout à l'heure, je rentre, à la première partie. Voici le diable, jettera quelques-uns de vous en prison. Et vous, donc, pourquoi? Pour que vous soyez éprouvés. Bien-aimé dans le Seigneur, je réfléchissais. J'ai dit, ça, c'est ce qui attend les enfants de Dieu. Le diable peut jeter, il va jeter beaucoup de gens en prison. Peut-être qu'il y a des gens qui se trouvent dans la prison, en train de traverser diverses épreuves. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici, c'est pour que nous soyons éprouvés par le Seigneur, que nous soyons testés comment nous allons réagir dans les épreuves. Vous savez, bien aimé, c'est facile de dire « Alléluia, Amen ». Quand tout va bien, mais quand on est en train de traverser la situation difficile, c'est là où on sait voir. Je dirais que quand un gobelet quelconque opaque est là devant, on ne sait pas voir le contenu qu'il y a là-dedans. Mais si on bouge et que ça se renverse, on saura jamais. C'est le mal de connaître qu'ici, il y avait du coca ou du fantal à l'intérieur. Mais quand tout va bien, on ne sait pas connaître. Comment est-ce qu'on va réagir? Alors, pour éprouver, bien aimé, nous devons savoir que pour Dieu, être éprouvé, c'est son objectif. Et il permet beaucoup de situations. Qu'est-ce que moi et toi, nous sommes en train de traverser? Sachant que peut-être pour nous, c'est l'épreuve pour éprouver notre foi. Alors, demande-moi, c'est la prière, Seigneur, garde-moi ferme dans la foi pendant cette épreuve. Merci beaucoup pour l'intervention. Nous donnons la parole à notre pasteur José du Canada, s'il vous plaît.
Merci encore pour la parole, maman. Je vois ici la manière que le Seigneur définit la victoire, que ce soit la fin du verset 10 ou même aussi la fin du verset 11. On dirait que le Seigneur définit la victoire comme étant la fidélité jusqu'à la mort. Pour moi, la manière que je vois la victoire, c'est que, en fait, si j'ai la victoire, je ne devrais pas mourir, en fait. Il faut que je triomphe de la mort. À ce moment, on va dire, oui, il est sauvé, il est victorieux. Mais le Seigneur me donne l'impression ici dans ces deux versets, dans ces deux phrases qui se trouvent dans deux versets qui se suivent, que le fait d'être fidèle jusqu'à la mort, c'est une victoire.
Amen.
quand ça m'apprend peut-être à voir les choses, à les définir comme le Seigneur les définit. Si je vois quelqu'un, un frère, qui souffre jusqu'à mourir, bien souvent, le témoignage qu'on peut rendre ou qu'on va dire, c'est pas qu'il a triomphé. On est même, on a pitié de lui. Pourtant, si c'est quelqu'un qui y est demeuré fidèle jusqu'à mourir, le Seigneur décrit cela comme une victoire. En fait, je vois que le Seigneur a un autre regard sur les réalités de la vie, sur les réalités de ma vie. Et je pense que la foi, c'est voir les choses comme Dieu les voit. C'est dire les choses comme Dieu les dit. C'est être du point de vue du Seigneur et accepter cela. C'est ça, être dans la foi. Et je trouve réconfortant que le Seigneur m'enseigne, qu'il m'apprenne cette manière de voir les choses selon lui. Merci.
Amen. Merci, Pasteur José. La recommandation, c'était d'être fidèle. Donc, pour dire quand on est infidèle, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Bien, merci, Pasteur José, pour cette intervention. Nous donnons la parole à notre frère Thomas. Vous avez la parole, s'il vous plaît.
Oui, merci, ma sœur. D'abord, je remercie Dieu que notre sœur est en train de nous diriger. J'aime ça. Que Dieu bénisse notre sœur. Je suis touché par le verset ici où le Seigneur dit qu'il y aura même des gens que le diable va mettre en prison. Il va mettre certains en prison. Certains même, il va les faire souffrir et il y a les accusations. Il connaît même les fausses accusations de gens qui se disent être de la synagogue, mais ils sont de Satan. Donc, je suis touché du fait que quand on me critique faussement, quand on m'attaque, on dit des choses et on me torture, je suis touché de savoir que Dieu connaît ça et il en souffre, il sympathise. Et la Bible va dire que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos souffrances, à nos faiblesses. Mais ayant été tenté lui-même en toutes choses comme nous et n'ayant pas commis de péché, il est capable de venir nous soutenir et nous donner de l'aide en temps de besoin. Hébreux 4, 14 à 16. Donc, je suis touché que même des critiques qu'on dit de moi, Dieu les entend, les connaît et m'encourage pour que je ne perde pas courage et que je continue la marche. Soyons encouragés. Quand nous entendons des critiques, des accusations, des troubles, des persécutions, sachons que le Seigneur a été tenté, accusé, il a été soupçonné et méprisé. Nous serons haïs aussi, mais il dit, prenez courage, je suis avec vous. Celui qui persévère, je vais donner la vie. C'est-à-dire que toi qui vas traverser ça, je serai avec toi et tu vas gagner. Je suis encouragé. Merci.
Merci, Pasteur Thomas, plutôt pour l'intervention. Bien aimé, ce qu'il vient de dire là est très important, de savoir que le Seigneur est même au courant des calomnies qu'on adresse à notre endroit. Et lui-même, il a traversé, disons, ces situations difficiles, il a été critiqué, il a vécu et il est capable de nous aider. Donc, nous devons être sûrs que pendant ce temps, nous sommes avec notre Dieu et cela, ça nous encourage, tenons-nous bons. Oh, bien-aimé, merci, Pasteur Thomas. Bien-aimé, nous sommes au verset 11. Nous terminons, disons, par là. Je ne vois plus de main et le temps. Nous sommes en train de préparer l'atterrissage, s'il vous plaît. Donc, il dit ceci, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Bien-aimé, il y a la seconde mort qui attend. Quand on n'a pas accepté le Seigneur, ce sera la mort. Et donc, on ne va pas souffrir encore la seconde mort. Donc, c'est très important d'être là. de savoir cela. Oh, bien-aimé, nous voyons là, il y a la durée de disons, de tribulation, on a dit 10 jours. J'aimerais bien-aimé qu'on sache ces 10 jours-là, sans doute, c'est une façon de dire une période délimitée, relativement brève, quoi. Donc, ce qu'on nous dit là, ce sont des choses vraies. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons terminé notre méditation de ce soir. J'aimerais donner à une sœur ou un frère, le frère Médard, si vous avez votre lecteur proche de vous, est-ce que vous pouvez nous faire la lecture, s'il vous plaît?
Merci, Maman Christine. Apocalypse, chapitre 2, verset 8 à 11. Tenir ferme dans la foi. Face aux difficultés matérielles et aux calomnies, les membres de l'Église de Smyrne font face à l'indigence et aux outrages des incroyants. Les souffrances, la pauvreté matérielle et ou financière ne nous enlèvent pas les richesses spirituelles liées à notre communion avec Jésus-Christ. Restez-vous fidèles à Dieu dans les difficultés matérielles et financières, même s'il faut perdre tous les biens de ce monde et supporter les moqueries des autres à cause de votre attachement à Christ. Malgré les persécutions, la persécution est conforme à la Bible. La persécution est l'hostilité de Satan contre ceux qui mènent une vie conforme à la Bible. Satan ne sert aussi des personnes ou des groupes religieux qui ne sont pas fondés sur Christ comme instrument pour créer des difficultés aux fidèles. Sans exclure les souffrances, Jésus-Christ promet sa présence en toute situation. Courage à tous ceux qui passent par des persécutions sous différentes formes, morales, physiques, religieuses, criminelles, politiques, etc., à cause de leur foi. Votre temps de souffrance ne durera pas éternellement. Ce sera pour une période brève. 10 jours, pas 12. Et dans la mesure de ce que vous pouvez supporter, 1 Corinthiens 10, 13, tenez bon, même s'il faudra mourir, ce sera pour vivre éternellement avec Christ. Exhortation, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Amen.
Amen. Merci beaucoup, frère Médard, pour la lecture de ce passage-là. Nous venons de suivre les commentaires faits par notre frère Luc Wambo du Cameroun. Alors, bien-aimés, nous avons terminé notre méditation de ce soir. Nous allons donner le texte de demain. Demain, c'est la méditation en famille ou personnel. Donc demain nous serons, disons, demain nous allons méditer sur Exode. Nous rentrons dans l'Ancien Testament, Exode 25, du verset 1 jusqu'au verset 8. Et après demain, ça sera, nous allons nous retrouver avec les psaumes 8, du verset 1 jusqu'au verset 10. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons la parole à notre pasteur José Célestin plutôt pour le communiquer. Et je demanderai après le communiquer tout à l'heure au pasteur Thomas de nous faire la prière de clôture, s'il vous plaît.
Oui, merci encore pour la parole, maman Christine. Nous avons de petits problèmes avec la radio. C'est en train d'être travaillé. C'est pour cela que plusieurs qui ont peut-être essayé d'écouter la radio, ils ont vu un message. Donc c'est un problème purement technique parce que les lecteurs qui a été utilisé pour la radio. C'est souvent le lecteur que beaucoup de radios sur l'Internet utilisent gratuitement. C'est une maison qui est en Allemagne. Cette maison a constaté et maintenant commence à taxer, à bloquer beaucoup de radios sur l'Internet. Donc nous payons aussi les prix. Nous serons obligés de payer ce que cette maison nous demande de payer pour ouvrir notre radio. Le camp biblique continue à prier. Il y a l'intercession tout à l'heure. Tout le monde est invité. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci.
Merci pour les informations. Pasteur Thomas, vous avez la prière, s'il vous plaît.
Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. La sœur a dirigé comme si elle dirigeait régulièrement. C'est parce que le Saint-Esprit est avec nous au FIMES et qui fonctionne avec nous. Nous prions, Père, pour la radio. Nous prions, Seigneur, pour le camp biblique et tout. Là où ça demande de l'argent, Seigneur, ouvre notre cœur pour être riche dans l'œuvre de Dieu comme nous avons lu aujourd'hui. Nous voulons être riches dans les services et nous voulons donner de l'argent pour que, Seigneur, ton travail aille de l'avant. Tendre Père, nous avons appris beaucoup de leçons aujourd'hui que nous devons persévérer. Tu as dit à cette église que, tu n'as pas dit à cette église que, voilà, il y avait des persécutions qui devaient arriver, mais je les ai effacées. Maintenant, vous serez dans la joie toute votre vie. Non. Il t'y a dit à cette église qu'il y aura des bénédictions, il y aura des persécutions. Satan va amener certains d'entre vous en prison, même jusqu'à la mort, persévérer. C'est lui qui persévère vers « Je vais donner la couronne de vie, la vie éternelle. » Tendre Père, nous comprenons alors que finalement notre vie éternelle, c'est une vie de victoire totale. C'est une vie de victoire jusqu'à la fin. Ce n'est pas une victoire gagnée, déjà on s'assoit et on vit n'importe comment. Père, merci. Nous avons appris aujourd'hui, Seigneur Dieu, que tu veilles sur nous, que tu nous aimes. Mais nous venons d'apprendre aussi, Seigneur, que c'est possible que quelqu'un paraisse être un frère et une sœur, mais en réalité, il sert Satan et il paraît comme s'il était un frère. Mais Dieu, tu connais tout le monde, tu connais le cœur. Tendre Père, nous, au FIMES, à l'étude biblique, nous voulons être sérieux avec toi. Nous voulons que tu dises ce que nous sommes, mais qu'en écoutant les rapports, on se rende compte que nous sommes sincères avec toi et nous sommes tes enfants. Tendre Père, nous prions que cette étude biblique continue, Seigneur, à nous bénir, à la radio, comme dans d'autres médias, Seigneur Dieu, nous voulons être présents. Nous voulons, Seigneur, être présents, que le monde entier écoute ta parole. Et que, Seigneur Dieu, tout à l'heure à la prière, que nous trouvions que c'est nécessaire d'entrer à l'intercession, à la prière, à l'adoration. Bénis ta servante qui nous a dirigé, Seigneur Dieu des armées, continue à multiplier ses possibilités de diriger pour qu'au fumet, Seigneur Dieu, davantage les gens du bureau s'engagent, les frères et les sœurs, que nous soyons engagés. Bénis ton serviteur, Seigneur Dieu, le pasteur José des États-Unis, qui d'habitude nous dirige le vendredi. Sois avec lui. Guéris-le, bénis-le, encourage-le. Prends soin de nous, Seigneur. Bénis le pasteur Célestin pendant qu'il est en train de travailler sur l'affaire de la radio et d'autres programmes qui sont sur la tête parce que tu lui as donné, Seigneur, de diriger ce groupe. Tendre Père, équipe-le, encourage-le, qu'il ne se sente pas seul. Bénis le garçon qui récolte l'argent, Seigneur Dieu des armées, provoque nos cœurs, Seigneur, à donner, à soutenir, à travailler, à être fidèle. Oh Dieu, bénis-nous. Souviens-toi de ta servante qui nous a dirigés. Encourage-la, Seigneur Dieu, pour qu'il multiplie ses possibilités de nous diriger davantage dans l'avenir. Bénis le FIMES, bénis les gens qui auraient dû nous suivre, Seigneur. Ils n'ont pas pu. Oh Dieu, console-les et rapidement remets-nous aux affaires. Bénis-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur, jusqu'au bout. Reste avec nous, encourage-nous. Et montre que tu es avec nous. Même là où nous critiquons, Seigneur Dieu, défends-nous, soutiens-nous, encourage-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Merci, pasteur Thomas, pour la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, que les dieux que nous sommes venus prier ce soir nous aident à être fidèles en tout. Fidèles dans la prière, dans la méditation et dans les données à son service. Amen.
Amen.
Alors,